La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Margot Delon, qui est chargée de recherche au CNRS, au Centre Nantais de Sociologie, et qui a fait paraître tout récemment aux éditions La Dispute, un livre très intéressant qui est issu de sa thèse. Le titre du livre, c'est « Enfants des bidonvilles, une autre histoire des inégalités urbaines ». Eh bien, Margot Delon, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, signifie que par rapport à votre livre, c'est peut-être une introduction. Vous faites partie du, enfin vous participez au projet qui s'appelle 3Gènes, comme pour 3 générations, avec plusieurs autres collègues sociologues ou autres. Et à travers ce projet, hein, vous attachez à l'étude de l'immigration, de ses effets sociaux, en particulier sur les descendants, donc des deuxième et troisième générations. Et vous étudiez un peu comme ça le. C'est un peu le signe d'une société française qui est de plus en plus diverse, et vous analysez les transmissions intergénérationnelles concrètes qui se produisent donc au sein de ces familles. Et vous mettez pas mal l'accent sur la force de la reproduction sociale qu'il y a entre ces 3 générations dans les familles immigrées comparées aux familles dites entre guillemets natives. Et vous identifiez un peu les caractéristiques des quartiers de résidence qui peuvent entraver ou favoriser les mobilités. Donc votre ouvrage, il s'inscrit pleinement dans ce cadre de recherche. Donc si vous voulez, pourquoi vous avez voulu faire travailler sur ce sujet, sur cette thèse-là, sur ce thème-là en particulier ?
Tout à fait. Alors merci. Déjà, peut-être une petite précision, c'est que le projet 3Gènes que vous évoquez, il est toujours en cours. Mais effectivement, l'idée, c'est bien d'aller au-delà la perception contemporaine qu'on a de l'immigration en France, en montrant que c'est une histoire partagée par énormément de familles et dont les effets perdurent au-delà de la première, voire de la seconde génération, qui ont été beaucoup plus étudiées que la troisième génération. Et nous, l'originalité du projet, c'est vraiment qu'on entre dans les familles pour voir qu'est-ce qui se transmet de la première à la troisième génération en fonction des origines, des lieux et des contextes sociaux. Voilà, d'une certaine manière, c'est un peu effectivement le prolongement de mes intérêts de recherche initiés dans le cadre de cette thèse en sociologie, vous l'avez dit. Et moi, ce qui m'a poussée initialement à Nanterre, donc c'est un travail qui commence à dater un peu, parce que la première fois que j'ai commencé, on va dire, à m'intéresser à cette histoire, c'était en 2010-2011, à l'hiver 2010-2011. Et j'étais alors en pleine formation à la discipline sociologique. Voilà, moi, j'ai pas grandi en région parisienne, donc c'était pas cette histoire des bidonvilles qui me parlait particulièrement. Mais en lisant des travaux de sociologie, d'anthropologie urbaine, et notamment un livre de Colette Pétonnet, qui s'appelle On est tous dans le brouillard, et qui parle notamment justement des bidonvilles des années 60. Ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, je n'avais aucune idée qu'un tel phénomène urbain avait existé dans ces années-là, avait entouré véritablement Paris. Enfin, il y avait des bidonvilles dans beaucoup, beaucoup de villes. Et l'invisibilité de ce phénomène urbain aujourd'hui, enfin en tout cas à l'époque où j'ai commencé cette recherche, m'a frappée et m'a donné vraiment envie d'en savoir plus et de comprendre, d'une part, qu'est-ce qui s'était passé une fois que les bidonvilles avaient été détruits, puisque les bidonvilles avaient été détruits, on les voyait plus du tout, on les voit plus du tout aujourd'hui, en tout cas sous cette forme-là et pour ces populations-là. Et une fois que les bidonvilles sont détruits, qu'est-ce qui se passe en fait ? Enfin, que deviennent les habitants, et notamment les plus jeunes, sur qui porte le livre, c'est-à-dire les enfants qui naissent ou grandissent dans ces lieux de vie.
Et voilà. Alors donc, il y avait surtout dans votre enquête, hein, c'était surtout la focale sur le bidonville donc de Nanterre, d'une part, mais aussi de Champigny-sur-Marne, d'autre part. Et ce n'est pas forcément les mêmes populations qui sont. C'est pour ça qu'on y reviendra après. Il y a des petites... même s'il y a des similarités, il y a aussi des différences. Donc, les bidonvilles de Nanterre, il a été construit, je pense, si je me souviens bien, c'est de 1953 jusqu'à 1972. Et au plus haut, il avait jusqu'à 14 000 habitants, ce qui est quand même, c'est quand même beaucoup pour ça, pour avoir un aperçu. Voilà. Et celui de Nanterre, de Champigny-sur-Marne, je crois que c'était le bidonville le plus important de France. Donc c'est vrai, c'est vraiment, c'était quand même quelque chose. Et ce qu'on pourrait voir, peut-être pas l'histoire des bidonvilles en tant que telles, même si la mémoire des bidonvilles elle a une grande importance, mais c'est surtout l'histoire des bidonvilles vue à travers le regard de ceux qui ont grandi, quel regard ils y portent, que ce soit un regard de honte, de défiance ou au contraire d'affirmation. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants des bidonvilles, suite à la destruction des bidonvilles dans les années 70, soit ils ont pu être relogés pour la plupart en cité de transit, qui ne s'est pas hanté quand même un petit peu bidonville, mais ce n'était pas terrible. Il y en a qui ont pu être relogés en HLM, ceux qui avaient de la chance, et ceux qui avaient encore plus de chance, ils ont pu se construire eux-mêmes ou des pavillons ou autre chose. Mais voilà, c'était très différent. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants? C'est un peu le thème de votre histoire par rapport à tout ça, et qu'il y a eu pas mal de différences. Les parcours n'ont pas été les mêmes les familles internes à tel bidonville, mais aussi entre ceux de Champigny qui étaient plutôt des Portugais et ceux de Nanterre qui étaient plutôt des Maghrébins. Voilà, c'est un peu la question qui nous intéresse, c'était un peu ça.
Tout à fait. Alors, si vous voulez bien, peut-être sur la question du relogement en particulier, je pense qu'on pourra y revenir avec une question entièrement dédiée, parce que c'est très intéressant et ça montre beaucoup de choses aussi pour les inégalités contemporaines, les inégalités relatives aux politiques de logement, les discriminations. Mais pour répondre à votre question, ça va être une réponse tout à fait de sociologue, c'est-à-dire ça dépend en fait. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et ce que j'ai réussi à percevoir avec ce travail, donc qui porte principalement sur une cinquantaine de personnes qui ont grandi dans les bidonvilles de Nanterre ou de Champigny-sur-Marne, donc vous l'avez souligné, qui était à la fois d'origine alors algérienne, marocaine et tunisienne à Nanterre, et essentiellement portugaise à Champigny. Et en fait, là, je pense que le résultat principal de ce travail, c'est que contrairement à une certaine image très homogénéisante, très misérabiliste qu'on peut avoir des bidonvilles, en fait, il y a une pluralité de socialisation, il y a une pluralité de destins qui se sont joués dans ces mêmes lieux de vie. Alors de l'extérieur, on a l'impression que c'est partout pareil, que c'est uniformément sale, violent, un habitat dégradé. Et effectivement, c'est des habitats qui sont précaires, il y a des véritables problématiques matérielles de conditions de vie. Il y a aussi des problématiques relatives à la saleté, et ça a beaucoup marqué les souvenirs des enfants, on pourra y revenir. Mais l'un des enjeux de mon travail, c'était de montrer qu'en fait, l'habitat, d'une part, n'est pas une expérience uniforme en fonction des caractéristiques des familles, et d'autre part, n'a pas les mêmes effets sur les trajectoires des enfants. C'est-à-dire que dans un même bidonville, vous allez retrouver des personnes qui aujourd'hui sont cadres supérieurs, ont fait des études à l'université, habitent dans des banlieues chics de la région parisienne ou même dans Paris, et dont rien aujourd'hui vous les croiseriez, vous n'auriez pas idée. Effectivement, c'est des choses qu'elles racontent souvent. Les gens ne pensent pas qu'elles ont grandi dans les bidonvilles. Donc vous avez ce profil-là. Et vous avez aussi une diversité d'autres profils. Il y a des gens qui sont restés à Nanterre et à Champigny, qui pour certains sont dans des HLM, mais pour d'autres ont accédé à la propriété. On a un ensemble de professions tout à fait diversifiées, des employés municipaux, barman, des gens qui travaillent dans la construction. Et puis on a des personnes de profils plus précarisés, voire, et ça c'est la limite de mon enquête, c'est qu'il y a aussi des personnes que je n'ai pas pu rencontrer, parce que le poids des inégalités, enfin l'exposition à des difficultés a été tellement forte qu'en fait, c'est des personnes qui sont ou décédé dans les années 80, qui était un contexte quand même, il faut le dire, très difficile dans certains quartiers. Je pense, on me le raconte comme, voilà, c'est la période où la drogue, 70-80, la drogue est arrivée, elle est entrée dans la cité, ça a décimé une génération entière de garçons qui sont tombés dedans, qui ont commencé à trafiquer, qui ont été en prison, qui ont été expulsés, etc. Et on va dire que moi, ces personnes-là qui sont peut-être les plus touchées par l'expérience de la ségrégation, des discriminations, bah, c'est celles que je n'ai pas pu rencontrer parce que, où elles étaient décédées, où elles étaient expulsées et elles ne vivaient plus en France. Donc ça vous balaye un peu l'étendue des parcours possibles, sachant qu'à chaque fois, ce n'est pas des choses qui se distribuent aléatoirement dans la population ou qui tiennent au mérite ou à la volonté individuelle, c'est des choses qui s'expliquent sociologiquement par un ensemble de caractéristiques et des familles et des contextes municipaux.
Oui, ça on pourrait le voir plus tard parce qu'il y a fait des différences entre le bidonville de Nanterre qui était proche de l'université de Nanterre, dont les enfants ont pu bénéficier de pratiques de bénévoles qui étaient étudiants, qui ont pu faire des cours ou d'alphabétisation ou autre, et donc du coup qui ont pu les motiver, alors que ceux de Champigny n'ont pas bénéficié des mêmes apports, on va dire, de bénévoles extérieurs, dont on le voit de la, par exemple de la scolarisation. Mais peut-être ça, on y reviendra ultérieurement. Mais ce qui voulait peut-être s'attarder, c'est comment eux, ils ont vécu, ces enfants, comment ils ont vécu cette épreuve qui était le fait d'habiter donc pendant les années 60, en gros, dans des logements qui étaient dégradés, mais aussi de subir des discriminations diverses, notamment du racisme et aussi la précarité. Enfin voilà, leurs parents étaient assez pauvres. Et comment se souviennent-ils de cette époque et est-ce qu'ils s'en souviennent ou est-ce qu'ils ont du mal à s'en souvenir? Est-ce qu'ils évacuent? Voilà, ça aussi c'est assez intéressant comme question à se poser par rapport à ça.
La mémoire effectivement varie beaucoup d'un enfant à l'autre, même si, pour répondre peut-être à la première partie de votre question, on retrouve des traits communs. Alors dans presque tous les récits, on a le souvenir des rats, des incendies, des hivers extrêmement rigoureux. Donc hiver extrêmement rigoureux, ça veut dire la neige, la boue, l'eau qu'il faut aller chercher en dehors, l'habitat qui ne protège pas face aux intempéries, donc l'eau qui s'infiltre, le poêle avec une odeur très particulière qui colle, qui reste sur les vêtements, et du coup la honte que les autres enfants autour de soi comprennent malgré le fait que les familles faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour que les enfants restent propres, notamment quand ils allaient à l'école, malgré cet effort de propreté, qu'en fait, toujours la boue ou l'odeur trahissait l'origine résidentielle. Donc, ces difficultés-là, on va dire, c'est vraiment le corps, la dimension la plus commune des récits que j'ai recueillis. Ils font pas non plus l'intégralité des récits dans le sens où les enfants, c'est aussi, leur qualificatif les désigne, ils ont aussi des souvenirs d'enfance. Donc ils ont aussi des souvenirs de jeux dans les bidonvilles, ils ont des souvenirs de solidarité très forte entre les familles parce que souvent les zones résidentielles des bidonvilles en fait se reconstituaient autour de solidarité, de connaissances passées. C'était des villages, par exemple d'Algérie ou du Portugal, qui se retrouvaient côte à côte dans les bidonvilles. Donc cette solidarité, elle a été très importante. Elle a été aussi à la base de fêtes. Enfin, disons, il y a toute une vie sociale qui tient vraiment une place importante dans les souvenirs des enfants. Une question à laquelle j'ai été souvent confrontée quand j'ai commencé à présenter les résultats de cette recherche, c'est de dire, mais finalement, qu'est-ce qui distingue ces enfants-là d'enfants qui seraient arrivés aussi d'Algérie, du Portugal, mais qui auraient grandi dans un autre lieu, par exemple, un logement social? Et une des réponses que l'enquête apporte, c'est que ce qui distingue des enfants, c'est vraiment une exposition à des frontières d'ordre différent, mais extrêmement fortes dans le quotidien. J'ai déjà un peu parlé de l'aspect matériel, savoir la boue, l'habitat. C'est-à-dire que les enfants des bidonvilles sont marqués comme différents parce qu'ils vivent dans les bidonvilles, un habitat qui matériellement n'est pas le même que les logements sociaux, le logement dit de droit commun ordinaire. Donc il y a cette frontière-là qui est physique en fait. Hein. Ils se rendent compte quand ils sortent du bidonville, quand ils vont à l'école, ils se rendent compte que les voisins qui n'habitent pas au bidonville ne les traitent pas de la même manière. Donc l'habitat agit vraiment comme un marqueur qui les distingue du reste de la population. Mais ces barrières-là, elles ne sont pas que matérielles. Elles sont aussi symboliques et elles sont notamment raciales. C'est-à-dire que l'habitat, en fait, sert de marqueur pour désigner des populations immigrées, algériennes ou portugaises, et les stigmatiser, les discriminer. Et cette frontière raciale, en fait, ce qui est terrible, c'est que même une fois que les bidonvilles sont détruits, même une fois que les populations sont relogées alors, dans des cités de transit côté Nanterre qui, vous l'avez dit, en fait, au début, bon, peuvent sembler plus en dur, et effectivement, les familles sont quand même contentes de quitter les bidonvilles, mais se dégradent très rapidement et n'ont de transit que le nom, c'est-à-dire que ça dure encore des années, et à la fin, ça s'est vraiment bidonvillisé. Donc, d'une certaine manière, la frontière matérielle, elle se reproduit. Mais au-delà de cette frontière, ce qui en fait perdure même encore aujourd'hui, c'est la frontière raciale. C'est-à-dire que des Algériens et des enfants d'Algériens sont encore confrontés des stigmatisations, des discriminations, en fait, d'être considérés comme des boucs émissaires. Et ça, c'est un enquêté auquel je consacre un portrait dans le troisième chapitre, Hakim, qui me dit, en fait, moi, j'ai l'impression de passer à la télé tous les soirs, il n'y a pas de travail, c'est de ma faute, les attentats, c'est de ma faute. Donc, il y a une permanence, en fait, de l'exclusion qui survit à la disparition du bidonville, mais qui était déjà là dans cette expérience dans les bidonvilles. Donc ça, c'est pour l'aspect vécu de l'expérience dans les bidonvilles. Ce récit-là, pendant l'enquête, ça n'a pas toujours été évident de le recueillir, dans le sens où je pense qu'il y a des conditions, c'est qu'en fait, on sait qu'il y a des conditions social pour se raconter, pour estimer qu'on a quelque chose d'important à dire à quelqu'un de l'extérieur. C'était mon cas, moi je ne connaissais pas les personnes que j'interviewais avant de les rencontrer, donc il fallait quand même que les gens estiment qu'ils avaient quelque chose d'important à me dire pour commencer à parler. Et ça, en fait, c'est pas du tout réparti uniformément dans la population. Ce qu'on sait avec la sociologie de la mémoire, c'est qu'il y a des groupes qui ont beaucoup de supports. Pensez par exemple au cas de familles, on va dire, nobles. Des familles qui grandissent dans des appartements ou dans des logements, voire des châteaux, si on prend les travaux des Pinson Charlot, qui rappellent en fait le passé de leur famille. Le passé de leur famille, il est incarné dans des objets, dans des tableaux, dans des livres d'histoire, parfois pour les familles les plus connues. Et tout ça, ça permet véritablement aux personnes de se raconter avec beaucoup d'aisance. Les bidonvilles, on est dans le cas inverse paradigmatique, c'est-à-dire que les bidonvilles ont été détruits, donc il n'y a plus de... même plus de lieux, en fait, où on peut dire, bah regarde, là, c'est là que j'ai grandi, c'est comme ça que ça se passait. Il y a très peu de photos, même si ça a changé au cours de mon enquête, cet aspect-là. Mais globalement, les familles n'avaient pas d'appareil photo et n'ont pas conservé beaucoup de traces matérielles des bidonvilles. Et surtout, il y avait un très fort stigmate qui pesait sur cette histoire. Donc, pour on va dire, être en mesure de recueillir des récits, y compris auprès de ceux et celles qui avaient le plus honte de se passer, il a vraiment fallu déployer des techniques d'enquête pour mettre les gens en confiance, donc les assurer que je comprenais, que je n'allais pas les juger, et dans certaines circonstances aussi, les encourager à parler avec l'appui d'un jeu de photographie. J'avais des photographies des bidonvilles pour chaque ville de Nanterre et de Champigny, et donc je leur montrais les photos pour qu'ils les commentent en me disant, je m'étais dit que ça aiderait peut-être... aussi de plutôt que de si jamais les personnes vraiment me disaient ah non je me souviens pas, j'ai rien à dire, au moins elles pouvaient me dire est-ce que ça ressemble à l'endroit où elles avaient grandi ou non, qu'est-ce que ça leur inspirait. Donc ça a été un peu comme ça que j'ai essayé d'appréhender ce récit du passé quand même lointain, parce que voilà, vous l'avez dit, les bidonvilles ont été détruits au début des années 70, les cités de transit dans les années 80, donc on parle quand même de plusieurs d'un épisode qui se situe il y a plusieurs décennies.
Eh bien, on va faire la première pause musicale.
Ceux qui subissent, ceux qui en profitent, ceux qui restent à la traîne parce que d'autres avancent trop vite, ceux qui brûlent des terres, ceux qui en récoltent la poussière, ceux qui suivent la cadence, ceux qui entrent en dissidence, ceux qui niquent tout en crevé, ceux qui poussent à tout niquer, ceux qui niquent tout en crevé, ceux qu'on paie pour nettoyer, ceux qui à l'ombre des tours survivent de petites courses, ceux qui licencient en aboyant des chiffres à la bourse, ceux qui éclatent leur fric, ceux qui éclatent de rire, ceux qui éclatent à coups de cric, ceux qui éclatent en sanglots et n'en reviennent toujours pas de finir derrière des barreaux. mots. Ceux qui bousillent des vies en prononçant des peines de salauds. Ceux qui interpellent ta basse balance à l'eau. Ceux que l'uniforme a fait mourir de détresse. Ceux qui passent un concours pour devenir CRS. Ceux qui apprennent à se vendre. Ceux qui préfèrent se rendre. Ceux qui savaient qui se taisent. Ceux qui se taisent pour n'avoir jamais pu parler. Ceux qu'on force à parler. Ceux qui se bouchent les oreilles lorsque les mots les effrayent. Ceux qui privent de lumière. Ceux qui recherchent et nous éclairent. Ceux qui donnent et ceux qui prennent. Ceux qui prennent et jamais ne donnent. Ceux qui n'attendent plus rien de personne. Et regardent se ranger les moutons qui moutonnent dès que la fin de la récréation sonne. Ceux qui nous promettent la vie de rêve et le bonheur. Et ces cons qui vont voter tous les 7 ans à la même heure. Ceux qui se réfugient derrière une couleur. Un parti, un drapeau. Ceux qui chient encore dans le pot. Ceux qui se battent, ceux qui s'empattent. Ceux qui luttent, ceux qui se lamentent. Ceux qui rêvent les poings fermés que leur compte en banque augmente. Ceux qui vivent comme des pachas de leur rente. Ceux qui font évacuer des appartements. Ceux qui couchent dehors sous tous les temps. Ceux qui ne connaissent d'un pays que la fange et les insultes. Ceux qui se tuent à des travaux de brute. Ceux qui s'abreuvent du sang et de la sueur de l'homme en fief et fils de pute. Ceux qui agressent la vie. Ceux qui caressent la vie. Ceux qui aiment et voudraient aussi être aimés. Ceux qui s'aiment trop et n'aiment pas assez. Ceux qui nous empoisonnent l'existence par fonction. Ceux qui nous affligent d'être tous les soirs un peu plus cons. Ceux qui nous rendent tous les jours un peu moins cons. Ceux qui distillent la rumeur depuis les bas-fonds. Ceux qui ravivent le rap dans des caves à l'étroit. Ceux qui débarquent et font leur beurre du rap en 6 mois. Ceux qui ont acheté ce disque sans l'avoir écouté. Ceux qui écoutent ce disque sans l'avoir acheté. Ceux que j'ai oublié en chemin. Ceux qui se cachent derrière d'autres mots que les miens. Parce que tout ce putain de monde existe. J'ai choisi mon camp et pratique le hors-piste.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étage et on vient d'écouter le groupe La Rumeur, le titre du morceau, c'est le hors-piste. On continue notre entretien avec Margot Delon par rapport à l'ouvrage « Enfants des bidonvilles, une autre histoire des inégalités urbaines ». Et aussi une question qu'on voulait se poser par rapport à ça, c'est que par rapport à ces enfants donc, qui n'ont pas vécu dans les bidonvilles, mais pas forcément dans les mêmes endroits et qui n'ont pas les mêmes origines non plus, quelles sont les multiples frontières qui ont marqué leur quotidien d'enfants, mais aussi d'adultes, donc par rapport à ces jeunes enfants, et pourquoi leurs expériences ont été autant différentes entre ceux qui ont grandi à Nanterre et ceux qui ont grandi à Champigny. Et ça, c'est assez intéressant à souligner.
Oui, alors sur cette question des frontières qu'on a commencé à évoquer, je suis contente d'avoir l'occasion de l'approfondir. Je pense qu'une, on va dire, une première grande différence entre Nanterre et Champigny, qui moi m'a beaucoup surprise, c'est que quand je suis arrivée à Champigny, j'avais commencé par faire des entretiens à Nanterre auprès des familles algériennes et j'ai ensuite poursuivi ce travail par des entretiens avec les familles portugaises. Et en fait, ce que je vous disais sur les conditions matérielles de vie, la boue, etc., au début, à Champigny, on ne parlait pas du tout. J'ai même eu des doutes sur le fait qu'il s'agissait bien d'un bidonville, que j'avais les bons contacts, que j'étais vraiment en train d'interroger les bonnes personnes. Et puis, en regardant les adresses, en confrontant un peu les récits entre eux, je me suis rendu compte que oui, effectivement, c'était bien de bidonville qu'il s'agissait, mais ils n'étaient pas perçus du tout de la même manière. Alors, mon enquête, elle ne revenait pas à dire qui avait tort, qui avait raison, qui mentait, pourquoi. C'était vraiment de comprendre pourquoi ces perceptions étaient si différentes. Et le premier élément, en fait, qui ressort, et des témoignages, mais aussi des photos ou des documentaires qu'on peut consulter, je pense que, enfin voilà, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'images dans les archives de l'INA, mais aussi des documentaristes qui maintenant ont produit des documentaires très intéressants sur ces histoires. Et on voit en fait que les deux bidonvilles, Nanterre et Champigny, étaient assez différents d'un point de vue urbain. Celui de Champigny en particulier était beaucoup plus souvent en dur, c'est-à-dire en parpaing. Alors, pourquoi c'est là? Pas parce que on pourrait s'en remettre aux préjugés populaires qui voudraient que les Portugais soient des maçons extraordinaires de naissance, etc. Pour savoir que les Algériens étaient aussi dans le bâtiment, donc il n'y a pas de raison qu'ils aient eu moins de compétences pour bâtir leurs habitats dans les bidonvilles. En fait, c'est que le traitement politique de des bidonvilles a été très différent en fonction de l'origine. Et là, on revient sur la question de la frontière raciale qu'on a déjà un peu commencé à évoquer. Lorsque les agents de la préfecture arrivent à Champigny, au début, ils ne considèrent pas que c'est un bidonville comme à Nanterre. Nanterre, c'était vraiment le lieu le plus stigmatisé, mais aussi craint, parce qu'il faut rappeler qu'on était en pleine période, on était immédiatement après la guerre d'Algérie, qui s'est terminée en 1962, et Nanterre était vraiment associé aux représentations de l'indésirabilité coloniale, au risque des réseaux du Front de Libération Nationale. Donc c'était vraiment le lieu de l'altérité dangereuse qui a été quadrillé par la police, des habitants n'avaient pas le droit d'agrandir leur baraque, il y avait un recensement extrêmement sévère, toute nouvelle construction a été détruite, donc les habitants n'avaient pas la possibilité matérielle d'améliorer leur habitat. À Champigny, ce qui est frappant dans les archives que j'ai pu consulter, c'est qu'en fait, les agents préfectoraux ne considèrent pas immédiatement qu'il s'agit d'un bidonville. Pour eux, c'est un village portugais, beaucoup plus ordonné, qui n'a rien à voir avec la saleté des agglomérations nord-africaines. Là, je cite de mémoire un extrait de ces fameuses archives que j'ai retrouvées dans les archives de la préfecture. Et en fait, cette perception, elle va avoir un effet très concret, c'est-à-dire que la police va beaucoup moins se rendre dans les bidonvilles de Champigny et va laisser les habitants à l'écart, mais aussi tranquilles, donc libres, entre guillemets, de construire, en tout cas pour les premières arrivées, des baraques un peu plus en dur, d'installer, alors c'était pas non plus des habitats standardisés, enfin hein, d'installer, enfin disons de bétoniser certaines parties, d'installer pour certains l'eau courante, mais pas du tout partout. Ça dépendait vraiment des zones des bidonvilles, mais en tout cas, voilà, il y avait des bidons, il y avait des zones qui étaient un peu plus confortables que les autres. Autour de ces baraques en dur, en revanche, se sont développées des baraques en bois et tôle beaucoup plus caractéristiques qui ont été louées entre guillemets par les premiers arrivants aux personnes qui sont venues ensuite dans des conditions beaucoup plus précaires. Voilà, donc déjà l'expérience des bidonvilles, elle est différente parce que les habitats sont pas exactement les mêmes entre les villes et ça tient vraiment à une question de perception politique de l'origine, une construction de l'origine des habitants comme une catégorie raciale d'intervention publique. Les Portugais, c'était des Européens, donc c'était des Blancs ou quasiment, et à cet égard, il ne fallait pas les traiter de la même façon que les Algériens, qui étaient des populations colonisées ou anciennement colonisées. Donc, premier facteur pour expliquer la différence entre les deux villes. Après, ce que l'enquête montre, c'est que si on rentre dans les bidonvilles, on trouve un deuxième facteur, une deuxième frontière, en fait, entre les familles, qui est celui, sans surprise, de l'origine sociale. On a l'impression, quand on voit les populations des bidonvilles, que en fait, c'est toutes les mêmes, qu'il n'y a pas de différence. Alors qu'en fait, s'il y a des micro-différences, alors certes, effectivement, il n'y avait pas des gens très très riches dans les bidonvilles, mais il y avait quand même des différences d'ordre social, économique et culturel qui, le moment venu, ont eu leur importance. Par exemple, à Nanterre, donc une des enquêtées dont je parle dans le troisième chapitre, dont je retrace un portrait approfondi pour qu'on comprenne bien comment ces différents éléments s'agencent les uns avec les autres, donc Lamia, elle raconte que dans la baraque dans laquelle elle a grandi, il y avait un hammam. Ça, c'est complètement extraordinaire pour l'époque et pour le bidonville de Nanterre. Alors, comment on explique que la famille de Lamia, plus exactement, ait eu un hammam dans lequel les enfants pouvaient se laver et pouvaient rester propres. C'est qu'en fait, c'était pas n'importe quelle famille. C'était une famille qui avait un peu plus de ressources que les autres. Là, sa famille, son père venait du Maroc, en fait, était un petit commerçant qui vivait à Casablanca, donc déjà dans une ville, et qui était parti en France contre l'avis de sa famille, en suivant une procédure de recrutement où il y avait une certaine sélection. Alors, il est venu en France pour tenter l'aventure, mais aussi pour garantir à ses enfants un accès à des études supérieures, avec l'idée très claire, Lamia raconte, qu'il fallait devenir avocat, médecin, ils ont vraiment encouragé tous les enfants, y compris les fils, qui étaient plutôt rares pour la période, à réussir à l'école. Donc, ils avaient un peu plus de ressources économiques, ils avaient un peu plus de ressources culturelles, et ça distingue aussi beaucoup et l'expérience des bidonvilles et les trajectoires ultérieures des enfants. Vous mentionnez tout à l'heure l'action des bénévoles. Ça, c'est très frappant à Nanterre, c'est qu'en fait, ça a été un peu une ville à la fois maudite et plus avantagée parce qu'elle était très visible. quand on regarde les articles qui sont parus dans le monde des années 50 jusqu'à nos jours et qu'on regarde tous les articles qui parlent des bidonvilles, on se rend compte que on a beaucoup plus parlé de Nanterre que de Champigny. Alors, j'ai dit parce que c'était le contexte de la guerre d'Algérie, mais cette visibilité de Nanterre, où du coup, ça a été vraiment un contexte très dur, aussi en termes de répression policière, ça a fait que beaucoup de gens se sont venus se mobiliser pour parler de la proximité à l'université. On peut parler aussi de mouvements politiques, mais aussi associatifs, caritatifs. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus à Nanterre auprès des familles pour les soutenir pendant la guerre d'Algérie. Et après, et le cas le plus connu, c'est celui de Monique Herveux, qui s'est carrément installée dans le bidonville au contact des familles. Donc ces familles-là, qui avaient un peu plus de ressources que les autres et des aspirations, des espoirs pour leurs enfants de les faire accéder aux études supérieures, voyant arriver ces bénévoles d'un autre monde social, ça a été vraiment une rencontre qui a permis aux enfants justement d'accomplir ces destinées que leurs parents avaient pour eux, de faire fructifier ces petites ressources culturelles de façon à connaître des ascensions. Ces deux ingrédients, et c'est vraiment ces deux ingrédients qui l'expliquent, les ressources des familles mais qui datent d'avant la migration et la rencontre, notamment à Nanterre, avec des aidants, des alliés d'ascension qui venaient d'un autre milieu social.
Et je crois que vous parlez aussi qui entre en jeu là-dedans, c'est par rapport aux politiques publiques en matière de logement ou de relogement, qui avait aussi un petit rôle. Voilà, qui avait aussi les effets des politiques publiques de l'immigration et de l'habitat précaire par rapport entre ces deux populations, elles avaient aussi joué par rapport à ça aussi.
Complètement. Et ça montre bien. En fait, la dimension structurelle des inégalités que je décris dans le livre, à savoir qu'il y a à la fois des choses qui tiennent aux ressources des familles, aux inégalités sociales, on va dire, qu'on connaît bien, je pense, aujourd'hui, il y a des choses qui tiennent aux villes, et puis il y a des choses qui sont au-dessus des villes et des familles, et c'est ces constructions politiques renforcées par une histoire longue et puis incarnées dans des politiques de l'immigration et de l'habitat très précises. Et ça, quand on va... Alors, il y a tout un ensemble de travaux, d'historiens, de politistes qui ont bien montré sur ces politiques de l'immigration et de l'habitat à quel point, en fait, il y avait des préjugés extrêmement forts. Donc, j'ai un peu parlé du rôle des agents préfectoraux, mais c'est des choses qu'on retrouve à tous les niveaux de la mise en œuvre des politiques publiques, mais même dès l'arrivée. Ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, il faut le rappeler, enfin, en tout cas, au début des bidonvilles, l'Algérie était française. Donc, en théorie, leurs habitants avaient tous les droits de se déplacer vers la France. Et pourtant, leur venue était vraiment crainte par les décideurs publics. Et en fait, ce qu'on a compris en examinant les archives de ces hauts fonctionnaires, c'est qu'ils ont souhaité faire venir des personnes d'origine portugaise pour contrebalancer la présence des Algériens en France. Et on le retrouve en disant... Vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure sur « c'est des Européens, c'est des Blancs », c'est écrit quasiment comme ça dans les archives. Alors qu'à l'époque, en fait, on ne savait rien du Portugal. On connaissait très bien l'Algérie, mais on ne savait rien du Portugal. Mais les hauts fonctionnaires voulaient vraiment faire venir des migrants portugais pour faire en sorte qu'il n'y ait pas autant d'Algériens que ça en France et que le patronat trouve une main-d'œuvre docile qui puisse travailler sur les chantiers ou dans les usines. On retrouve aussi ça en termes de politique de logement. À savoir qu'à Nanterre, quand les bidonvilles sont détruits, la solution qui est proposée aux familles, ce qui est quand même une différence forte avec aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, quand on détruisait les bidonvilles, on relogeait les familles. Alors, pas dans des logements de droit commun, mais il y avait quand même une solution qui était proposée et pas seulement trois nids en hôtel pour les plus chanceux et chanceuses. C'était donc la solution des cités de transit qui devait permettre aux familles de s'intégrer et de rejoindre ensuite les circuits classiques du logement. Et ça, c'était une humiliation pour beaucoup de familles, parce qu'en fait, et ça, c'est ce que raconte toujours Lamia dont j'ai déjà parlé, c'est que ces familles, il y en avait beaucoup qui venaient déjà de ville et qui savaient se servir, je ne sais pas, qui savaient ouvrir l'eau, qui savaient appuyer sur un interrupteur. Et la famille de Lamia, par exemple, a été très humiliée quand des assistantes sociales lui ont expliqué qu'il ne fallait pas mettre des poules dans les baignoires, etc. Donc c'était un habitat à visée socio-éducative, mais qui reproduisait quand même un bon nombre de préjugés racistes. Et si les familles algériennes y sont restées si longtemps, c'est que les bailleurs sociaux refusaient de les reloger à Nanterre, mais aussi dans beaucoup de villes voisines. Donc il y a une discrimination persistante sur l'habitat pour les Algériens. Et ce qui est frappant à Champigny, c'est que c'est une population qui, quand on regarde les discours des hauts des hauts fonctionnaires semblaient bénéficier d'une certaine bonne image, parce que justement, ce n'étaient pas des Algériens, ils étaient dociles, ils étaient courageux, ils travaillaient beaucoup. Mais lorsque la question du relogement se pose, c'est-à-dire que lorsque les bidonvilles commencent à être détruits, en fait, les habitants vont faire un peu de résistance. Pour eux, ils vivaient dans une légalité, entre guillemets, en fait, parce que personne n'était jamais venu les voir, ils étaient à l'écart, ils avaient un certain mode d'organisation économique qui leur permettait d'économiser pour, avec le projet ensuite de rentrer au Portugal, ils s'étaient installés pour certains depuis longtemps. Bref, tout le monde n'était pas favorable à être logé dans, pourtant, des logements sociaux. Des familles, à ces familles portugaises, ont pensé proposer des logements sociaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand les agents arrivent pour leur dire « bon ben voilà, maintenant, on va détruire votre baraque et vous allez partir en logement social », en fait, les familles refusaient. Beaucoup de familles ont refusé, beaucoup de familles revenaient ensuite dans les baraques, n'acceptaient pas les solutions de relogement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là que la perception des personnes portugaises, elle change complètement. On passe du bon immigré modèle à « c'est des gens d'origine montagnarde, d'origine frustre ». Là, je cite enfin, vraiment un peu de mémoire, mais en tout cas, c'est des extraits qu'on retrouve dans le livre. Ils sont appâtés par le gain, ils font des caprices, et en fait, donc on voit bien que la catégorie, elle est sociale. La façon dont on considère les Portugais, c'est tant qu'ils se conforment aux préjugés et à l'image qu'on a d'eux, ça va bien, mais dès qu'en fait, ils expriment des choix qui sont peut-être divergents de ceux des décideurs politiques, ben là, le stigmate, il revient, là, la discrimination, elle revient. Donc, la résorption à Champigny, elle s'est finie par la police, les bulldozers, la violence, etc. Et c'est des familles qui, globalement, ont très peu accepté les solutions institutionnelles de relogement. Alors, tout à l'heure, vous disiez, effectivement, elles se sont relogées dans des maisons. C'était à la fois une chance, mais c'est aussi, pour certaines familles, des conditions extrêmement précaires d'un point de vue matériel qui ont subsisté. Ça voulait dire surpeuplement. Le cas typique, c'était achat d'un vieux pavillon un peu délabré ou d'un terrain sur lequel deux ou trois familles vont rénover ou construire plusieurs étages afin d'habiter ensemble. Mais dans peu de pièces, quoi. Donc, disons, ça n'a pas toujours été l'accession au pavillon, peut-être auquel nous on retrouve aujourd'hui, avec beaucoup de confort, etc. Ça a aussi été le maintien dans ton habitat, souvent à l'écart et parfois dégradé pendant des années pour les enfants.
Eh ben, on va faire la dernière pause musicale.
Ramer la gueule qu'on tire, l'air de vrai taré à fuir qu'on tire sur ces images trompeuses qu'on nous teint, ces miroirs défigurants où l'idiotie crève l'écran, regarde, on y voit en quelques plans des fils de prolétaires immigrés englués comme par fatalité à des vies forcément privées de sens, bourrées de faux plis, des espaces pouilleux de désirs creux, la débilité nous empêcherait de prétendre à mieux, autant de familles entassées en déchus quartiers ouvriers comment créer à la précarité par goût et nature, comme spontanément fixées à la misère à ces traînées de pourriture, on y voit nos anciens gratter le pain du modèle citoyen sans même s'écorcher les mains. Ou bien encore ici et là des frères abonnés à la poudre et ses travers ou que les porcs ou incarcères. Car l'échec paraît-il comme une seconde peau serait héréditaire. On y voit en tous les cas ni l'égard ni l'estime de soi nulle part. Que des ruines, des pertes et des ratages obligatoires. Et je les entends encore nous le dire du haut de leur chair où ils s'empiffrent à la tire. Où ils se bouffent en privé le soleil des richesses de tous. Où ils parquent, appauvrissent, élargissent le gouffre où ils nous poussent. Et nous inscrivent en grosses lettres majeures qu'enfin la sève de nos élans ne s'évalue à presque rien. Et je les entends encore nous le dire. Mais là n'est pas le pire, là n'est pas le pire. Non là n'est pas le pire, là n'est pas le pire. Non là n'est pas le pire, là n'est pas le pire. Non là n'est pas le pire, là n'est pas le pire. Là n'est pas le pire. De toutes pièces ils ont créé la règle du jeu, promulgué l'égalité et pipé les dés qu'ils t'ont attribué. Tu parles de hasard si tes records ont l'air piteux. Mais voilà ta chance aurait de la merde dans les yeux. En tous les cas, si jeu il y a, moi je vois mes bras couverts de plaques d'allergie à leurs critères de réussite, leurs courses au mérite, leurs primes aux plus dociles et les suceurs de bite, leurs médailles de petits et grands gagnants, du plus habile à produire des perdants, des tréfonds de blessés profonds, dire qu'ils campent sur nos déboires tout du long, dire qu'ils prétendent planifier nos existences, qui sont les racailles quand nos mauvaises notes font leur romance, quand ils ne vivent qu'au titre d'usurper le rôle d'arbitre, de forger les chaînes modernes de l'exploitation, d'un modèle d'éducation, d'lâcher amorphe mouton, d'exécutant porné, placé sous tutelle, d'abrutis jetables et convaincus malouf femelles. Et l'on reste à leurs yeux les parasites à leur paradis du fric, ou au mieux les fourmis de corvée aux tâches merdiques. On serait là, à notre place de choix, parce qu'on friquait du crâne, parce qu'inscrit dans nos gènes, ou parce qu'enfin, la sève de nos élans s'évalue à presque rien. Et je les entends encore nous dire, et je les entends encore nous dire, mais là n'est pas le pire, Là n'est pas le pire, là n'est pas le pire, non là n'est pas le pire, 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 non là n'est pas le pire, là n'est pas le pire, là n'est pas le pire. Le pire est qu'on ait fini par le croire, mon frère. Le pire est qu'on ait fini par le croire, mon frère. Le pire est qu'on ait fini par le croire, mon frère. Le pire est qu'on en ressort avec le mépris de nous-mêmes. Le pire est qu'on ait fini.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On écoute toujours le groupe La Rumeur et le titre du morceau, c'est Le Pire. Eh ben, on va finir notre entretien avec Margot Delon par rapport à l'ouvrage Enfants des bidonvilles, une autre histoire des inégalités urbaines. Et peut-être que quelque chose d'intéressant, c'est un article que vous avez écrit il y a un petit bout de temps. C'était dans la revue Métropolitique et vous faisiez état de la perception donc, des bidonvilles français donc, dans le journal Le Monde depuis l'après-guerre jusqu'à nos jours. Et en introduction, vous dites que dans ce documentaire de José Vieira, qui avait vécu en bidonville, qui s'appelle « Souvenir d'un futur radieux », le documentaire, il met en scène un parallèle frappant entre le bidonville dans lequel José Vieira avait grandi, donc dans l'Essonne, à la périphérie de la ville de Massy, et il fait un parallèle entre un bidonville qui a été construit au même endroit, très récemment, par les populations d'Europe de l'Est, donc de Rome. Et par là, quelque part, il entendait combattre un peu une certaine amnésie de la société française, comme quoi dans les années 70, on aurait détruit les bidonvilles, il n'y aurait plus de bidonvilles, le problème aurait été réglé. Et bien en fait, pour lui, les Roms d'aujourd'hui, c'est quelque part les Portugais des années 60 ou d'autres, et donc les bidonvilles dans lesquels ils habitent ou ils ont habité, ça constituerait le même marqueur d'exclusion. Et une autre anecdote, c'est que José Vieira, il a participé à la marche pour l'égalité des années 80 avec d'autres gens qui avaient vécu en bidonville, mais du côté de Nanterre, d'origine plutôt maghrébine. Comme ça, ça fait un pont. Et ça nous fait un lien avec la question des enjeux mémoriels. Et ce qu'on voulait savoir par rapport à ça, c'est quels sont les enjeux mémoriels en général, déjà par rapport aux enquêtés avec les 50 personnes avec lesquels vous êtes entretenus, mais les enjeux mémoriels par rapport à cette question aussi des bidonvilles, c'est assez intéressant, d'autant que puisque par rapport à certaines actualités, il peut y avoir des parallèles que certains ne veulent pas voir.
Des parallèles frappants. Merci vraiment pour citer ce travail de José Vera. C'est un documentaire merveilleux que j'encourage tous vos éditeurs et vos éditrices à aller voir et à lire aussi, parce qu'en fait, il vient de l'adapter en roman et donc ça va paraître en mars. Chandaigne, et je pense que ça va être un très très beau livre qui revient sur ce parallèle d'une façon extrêmement touchante et importante politiquement au vu de l'actualité que vous mentionnez. Alors quand José Vieira réalise ce documentaire et qui est à peu près la même période à laquelle moi j'accomplis mon enquête, c'est les bidonvilles roms qui sont au cœur de l'actualité. Alors ils le sont toujours aujourd'hui, mais je pense qu'on a aussi, en fait c'est un parallèle qui pourrait s'appliquer aux bidonvilles dits aux camps d'exilés, de migrants, etc. Donc l'habitat précaire, il est loin d'avoir disparu. On a aussi vu très récemment à Mayotte comment les bidonvilles continuaient de servir, comme vous l'avez souligné, comme vous avez utilisé ce terme, de marqueur d'exclusion. Donc il y a des parallèles en termes de l'habitat, il y a des parallèles aussi en termes de population et de lieu. En fait, moi, ce que je raconte dans les premières pages du livre, c'est qu'au moment où je suis en train de finir de l'éditer avec La Dispute, donc ma maison d'édition, on est en juillet de l'année dernière et à Nanterre, des policiers tuent le jeune Naël. Et donc moi, j'avais enquêté à Nanterre, je connaissais le quartier, alors je ne connaissais pas sa famille, mais disons, je connaissais ce quartier et je connaissais l'histoire que beaucoup de médias ont rappelé à ce moment-là des bidonvilles. Donc c'est un passé qui a été longtemps oublié et cette amnésie est dommageable à plusieurs titres. Donc ce que j'ai essayé de faire avec cette histoire, cette mémoire des bidonvilles, c'est de réfléchir à la façon dont la mémoire pouvait ouvrir des brèches dans la reproduction de l'ordre inégalitaire et favoriser certaines formes de lutte, de mobilisation politique. Tout à l'heure, j'écoutais, c'était la première chanson que vous avez passée, « Hors piste de la rumeur », et à un moment, donc, le groupe parle de ceux qui entrent en dissidence. Et c'est quelque chose qui m'a quand j'ai entendu, ça m'a frappé. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, certains choisissent d'entrer en dissidence par rapport à l'ordre établi? Eh bien, dans certains cas, il se trouve que c'est précisément la mémoire. Encore une fois, Hakim, dont je retrace le portrait dans le livre, qui est l'un des enfants les plus marqués par la reproduction des inégalités que j'ai rencontrées, lui, il se décrit comme étant viscéralement opposé à toutes les formes d'injustice qu'il peut rencontrer. Il dit, moi, même si ça ne me regarde pas, c'est plus fort que moi, j'y vais. Là, avec cette expression, c'est plus fort que moi, on a vraiment une indication que l'expérience a forgé des dispositions, a forgé des manières de voir le monde, de le percevoir, de s'engager, d'agir, qui sont vraiment enracinées dans les personnes. Et dans le cas d'Hakim, ce qu'a produit l'expérience de bidonville, c'est vraiment une intolérance face à l'injustice, face aux inégalités, mais extrêmement forte. Donc c'est quelqu'un qui est syndiqué, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé au moment où il y avait les bidonvirons, il faisait partie de celles et ceux qui allaient voir les habitants et qui leur proposaient de l'aide, qui étaient vraiment mobilisés à leur côté pour obtenir un relogement. Donc il y a ces personnes qui, du fait de leur expérience, alors c'est pas tous les habitants, il faut là aussi certaines conditions pour que ces mobilisations se créent, mais on va dire que le rapport au passé dans ces cas-là est vraiment un moteur d'engagement très fort pour éviter que des inégalités se reproduisent. Et je pense que je vous laisserai découvrir le travail de José Vieira, notamment dans son livre, mais c'est aussi un moteur de dénonciation des inégalités contemporaines. Mais c'est insupportable de voir que pourtant on est censé progresser dans la société, on se développe de plus en plus, on est une puissance mondiale, mais pourtant les mêmes inégalités se reproduisent et c'est toujours des groupes qui sont frappés par ces inégalités. Et ça, pour des enfants qui l'ont vécu dans leur charge, c'est proprement insupportable de voir cette reproduction. Donc ça, c'est pour une lutte, on va dire, vraiment générale à l'échelle de la société, comment la mémoire peut être un moteur d'engagement. Elle peut aussi être un moteur d'engagement à l'échelle locale pour faire en sorte que cette histoire ne soit plus tue, mais au contraire reconnue, et qu'on arrive à avoir des supports de mémoire pour transmettre, notamment aux générations qui n'ont pas connu les bidonvilles, qui n'ont pas connu l'époque de la guerre d'Algérie côté Nanterre. Et pendant mon enquête, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des associations d'anciens enfants des bidonvilles à Nanterre et à Champigny qui sont constituées, avec des mots d'ordre de chaque côté qui visaient précisément à inscrire dans l'histoire de la ville cette histoire, à revendiquer le fait en disant « nous aussi, on était des Nantériens, on était des Campinois, et notre histoire vaut la peine d'être racontée ». Donc, ça n'a pas toujours été forcément bien accueilli, il y a eu des conflits, mais en tout cas, il y a vraiment eu cette mobilisation pour que la mémoire ne soit plus tue, ne soit plus oubliée, mais fasse véritablement partie intégrante de la ville et de son quotidien politique.
Par rapport à cette question de la mémoire, c'est intéressant. Il y a un sociologue algérien qui avait travaillé sur les migrations, très important, Abdelmalek Sayad, qui a fait un livre sur le bidonville de Nanterre, ça s'appelle Un Nanterre algérien, terre de bidonville, qui était paru aux éditions Autrement, si je me rappelle bien. Et lui, ce qu'il disait par rapport à ça, c'était bon, lui, c'était les 60, lui, pour c'était un sociologue de l'immigration, lui travaillait sur par rapport aux générations, ça changeait, et comment le rapport entre les émigrés, en tant qu'émigrés, en tant qu'immigrés par rapport au pays d'accueil et au pays où ils partent. Et lui disait que l'habitant du bidonville, c'était quelque part un être de l'entre-deux, et un hybride à cheval entre deux mondes. Donc le monde dont il ne peut plus faire partie, donc l'ancien monde l'ancien monde rural qu'il a quitté, mais le monde urbain qu'il veut rejoindre, mais qu'il ne veut pas de lui. Donc du coup, c'est très... c'est une situation d'entre-deux assez compliquée. C'est compliqué à vivre. Par-delà de ça, peut-être les descendants les habitants du bidonville, ils vont le porter. La migration, c'est pas une page blanche. Et ces populations, à travers la suspendue entre deux temps et deux espaces, pour elles, leur travail, c'est très d'assumer un passé qui ne passait pas ou qui avait du mal à passer. Et à travers la mémoire longue des vagues d'immigration, des générations d'immigration, à travers cette mémoire longue des familles qui sont sédimentées, eh ben, toutes ces rencontres-là, ça va les fabriquer pour qu'ils ne soient plus ce que s'appelle ce qu'il appelait entre guillemets des enfants illégitimes, mais des enfants reconnus. Et ça, c'est assez intéressant à remarquer. Donc, je ne sais pas si vous avez pu remarquer des choses par rapport à ça dans votre enquête.
Oui, l'enquête d'Abdelmalek Sayad et son enterre, mais plus généralement ses travaux sur l'immigration, c'est vraiment des travaux de référence extrêmement importants. Moi, j'ai surtout travaillé, alors il y avait évidemment la double absence que vous mentionnez, mais il y a aussi l'impératif de discrétion qui est très fort côté portugais à Champigny, cette espèce d'injonction à se conformer, ce qu'on disait tout à l'heure, à l'image positive, enfin positive, en tout cas particulière, qu'ont les autres d'une immigration modèle discrète, etc. Il avait écrit à propos des immigrés algériens, et en fait, je l'ai vraiment retrouvé aussi chez les populations d'origine portugaise. Donc, ce qui est vraiment très fort avec les travaux de sociologues, c'est qu'on retrouve beaucoup de choses d'une période à l'autre et d'un groupe à l'autre. C'est des écrits qui sont vraiment très forts. Sur la dimension plus mémorielle, effectivement, l'illégitimité, elle est forte et je pense qu'elle elle marque la production des récits au niveau individuel. Bah, comment est-ce qu'on rend légitime cette histoire? Ça peut être un moteur justement de s'engager pour faire en sorte qu'on en parle davantage, mais elle marque aussi plus généralement, au-delà de la mémoire de cet épisode en particulier, la sensation qu'ont certains n'ont plus immigré, n'ont plus descendant de deuxième génération, mais vraiment les troisième génération. Alors moi, j'ai eu peu finalement de témoignages de cette génération-là parce que je travaillais surtout sur des personnes qui étaient quand même adultes, qui avaient entre 40 et 60 ans au moment de l'enquête. Mais dans certains entretiens, il y avait, je pense notamment d'un entretien avec trois sœurs, et il y avait certains de leurs enfants qui étaient présents. Et c'était au moment des attentats de 2015, et en fait, la fille de la personne que j'étais en train, avec qui j'étais en train de parler des bidonvilles, elle disait, mais en fait, pour nous, c'est pareil. À l'école, on vient me voir et on me dit, mais toi, qu'est-ce qu'on en pense des attentats, etc. Donc, il y a bien ce soupçon d'illégitimité dont parlait Sayad, qui se reproduit génération après génération, qui était extrêmement fort au moment des bidonvilles, parce que c'était un marqueur très puissant qui, comme on l'a évoqué, traversait un peu l'ensemble de la vie des enfants. Mais on en retrouve aujourd'hui des traces. Ça passe davantage par le rapport à la religion, avec la très forte stigmatisation de l'islam qu'on connaît actuellement. Et les enfants des enfants sont aujourd'hui les destinataires de ces mêmes discriminations. Et c'est dans ces cas-là que, effectivement, la mémoire peut devenir une ressource. Et dans le cas de cette famille, le fait que cette jeune fille ait entendu parler de l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, lui donner des ressources pour se dire, bah, finalement, c'est pas moi, c'est plus large que moi, c'est structurel, donc c'est dur, mais je peux y faire face, en fait. Je sais ce que ça veut dire, je sais qu'on est dans une société raciste. Donc, j'ai des armes pour me protéger face à cette situation. Donc, c'est un des enjeux pour moi de rendre accessible cette histoire, et ça va dans le sens aussi de beaucoup de témoignages que j'ai recueillis ou qui ont été délivrés par les enfants de bidonvilles dans d'autres endroits, c'est de en fait donner des ressources pour se défendre des inégalités contemporaines en connaissant mieux le passé de la famille.
Eh ben voilà, je pense que notre entretien a pu amené à beaucoup la connaissance d'un sujet qu'il connaissait pas, et je ne savais pas si vous avez un mot pour la conclusion, si vous voulez finir par quelque chose, comment conclure cet entretien ou par rapport à votre livre, ou si vous voulez conclure.
Bah, déjà merci pour cet échange, c'est toujours un réel plaisir de revenir sur ce travail et surtout d'essayer de le diffuser au plus grand nombre. Voilà, c'est en écrivant le livre, j'ai vraiment fait un effort pour que la thèse ne reste pas la thèse, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment accessible à un public plus large, qu'on puisse en débattre, en discuter. Donc j'étais particulièrement contente aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous, et j'espère avoir d'autres occasions de le faire dans des classes, dans des associations, avec des mouvements militants. L'idée, c'est vraiment que cette histoire, elle circule, et peut-être le dernier mot, Bah, je voudrais le dédier aux enfants des bidonvilles que j'ai rencontrés il y a maintenant plus de 10 ans, parce que voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de publier le livre, de reprendre contact avec elles et eux, et c'est toujours très émouvant d'avoir leur retour, d'avoir leurs nouvelles, et puis aussi, bon, malheureusement, des fois, il y en a qui sont décédés parce que le temps de la recherche est très long et le temps ordinaire suit son cours, et donc je voulais avoir une pensée pour tous les enfants des bidonvilles qui ont témoigné et qui luttent à leur manière aujourd'hui.
Eh ben voilà, on vous remercie pour cet entretien. Si on a le temps, on va peut-être passer un petit peu le dernier morceau de la rumeur qui s'appelle « On m'a demandé d'oublier ». Ben justement, ils vont pas oublier. Et ben, on vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liés balafrés. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu darder une nation à nous expédier en charbon. Des années après, l'industrie te perfore les poumons. S'ils n'ont pas déjà tâté les balles au front, en première ligne, chair à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire, les chapes de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire. Et le prix des soulèvements, les trop pleins, de martyrs étouffés, de lourds silences au lendemain, de pogroms en plein Paris, de rafles à la benne. Et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la Seine. On m'a demandé d'oublier
l'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous.
Perce et laisse des trous.
On m'a demandé d'oublier les traînements dans la boue, les doigts pointés d'une seule voix, les réquisitoires incendiaires, les mises en scène de fièvre, d'accusation, la salive aux lèvres, puis les vomis sur de l'opinion. On m'a demandé d'oublier ces complets de boucs émissaires taillés sur mesure, les trains des froids des sèches, une voile achetée en pâture, à l'hystérie d'un troupeau bercé trop près du mur. On m'a demandé d'oublier la crasse de cervelle au détour de plus d'un de leurs discours, où le bruit et l'odeur émanent en vapeur de nos races moribondes, où Marianne ne peut recueillir toute la misère du monde quand sa main droite affame le sud et l'assiste à creuser sa propre tombe. On m'a demandé d'oublier les prises télévisées, les charters et autres cercueils volants convoyés, les gâches filés aux idées du parti d'un borgne en sueur, les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs, les intérêts trouvés à laisser chier ses clameurs.
L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
L'infamie perce et laisse des trous.
On m'a demandé d'oublier les chasses ouvertes aux nègres et bougnoules offertes, aux traits hiver kaki de part à crachant le feu, les appels à la mort lancés, finis-le, allez, achève-le. On m'a demandé d'oublier les fracas de ces voltigeurs et ces balles policières en plein cœur, puis le sursis accordé à la volaille criminelle en habit. Ailleurs, mes frères écopent de peines alourdies, et oui, les trafics crépusculaires ne profitent jamais aux petits. Un orteil dans l'extrême et c'est toute la jambe qui suit. Morfle, si tu viens t'y mettre, il pleut à verse des lambeaux d'infamie sur nos êtres. On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées balafrées. On m'a demandé d'oublier
l'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il encaisser encore les coups? L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous.
Faudrait-il garder la mémoire à genoux? L'infamie perce et laisse des trous.
Perce et laisse des trous.